L'échange écologique inégal, destruction de la nature et accumulation du capital. L'appropriation des ressources naturelles est le code sur lequel reposent les sociétés contemporaines. Terres agricoles, forêts, eau, ressources énergétiques et minières constituent leur soubassement matériel. Cette appropriation est marquée du sceau de l'inégalité. Ça commence direct. Très belle introduction. Les pays les plus riches imposent au reste du monde une division du travail permettant d'assurer l'approvisionnement nécessaire à l'accumulation capitaliste dans les centres de l'économie monde. Et ben voilà, en vrai, voilà, ça rebondit clairement sur les anciens articles qu'on a lus de Samir Amin, proposés par le monteur décolonial. Cette appropriation repose sur un mécanisme mondial d'exploitation et d'accaparement des ressources biophysiques, terre, eau, matières premières, biodiversité, des pays périphériques. L'échange écologique inégal soutire aux pays pauvres les ressources nécessaires à leur développement de long terme. Pour penser l'interaction entre régime d'accumulation et destruction de la nature, la réflexion sur l'échange écologique inégal semble déterminante. Et ouais, je pense même en fait, à l'heure actuelle, en gros, si tu veux être écologique et basé, tu es obligé de penser les rapports, l'échange inégal écologique, tu es obligé d'être anti-impérialiste et décolonial, tu vois. Pour moi, en fait, je ne pense pas qu'on puisse fournir un vrai discours écologique basé sans cette réflexion-là. Parce que sinon, bah, dites-vous que dès qu'on aura des avancées sur le Nord, quasiment la plupart se fera en fait sur les pays du Sud. Toutes les avancées économiques qu'on aura dans le Nord se feront sur le dos des pays du Sud. Alors, pas forcément pour tout, mais pour la plupart des trucs, quoi. Le mode de vie des pays développés repose sur un large socle de ressources matérielles. Ce constat est d'autant plus vrai que dans les pays les plus riches, dans les pays les plus riches, pardon. Un Français moyen utilise par exemple annuellement environ 21,6 tonnes de matériaux. Son empreinte eau est de 1786 m3 par an, soit l'équivalent du volume intérieur de deux Boeing 747. Oh, c'est intéressant pour visualiser un petit peu. Ou encore 1600 litres de produits pétroliers. Ah ouais, la dinguerie. Toute la société et le mode de consommation contemporain reposent donc sur un rapport constant en ressources naturelles venues du monde entier. Les enquêtes du journaliste Guillaume Pitron ont récemment mis en lumière l'impact massif du numérique en matière de consommation de ressources et, ou d'énergie. Et c'est pour ça, moi, que je pense sincèrement que... en gros, qu'est-ce qui permettrait d'avoir un discours décroissant qui pourrait se faire entendre de la population ? Bah moi, je pense, pour un peu sortir des discours décroissants qui sont un peu repoussants, etc., si on arrive à bien articuler un discours anti-impérialiste et décroissant, qui va être d'office, la décroissance amène des logiques anti-impérialistes et compagnie, ou en tout cas, il faut les construire comme telles, bah, du coup, ça permettrait vraiment d'avoir une espèce d'accroche, d'ancrage sur la volonté de construire un discours décroissant. Parce que là, c'est pas juste un discours décroissant en mode, oui, bon, il faut réduire notre impact parce que écologie, blablabla, tu vois. Non, il y a vraiment un discours de, pour permettre l'émancipation des pays du Sud et pour permettre, en fait, l'arrêt du vol et du pillage des pays du Sud, la décroissance est une des clés pour permettre ça. Et là, du coup, t'es aussi dans un accroche en mode, ah ouais, c'est vrai que ça me fait chier, mais c'est important pour la suite, quoi. Il faut le faire parce que sinon, on n'arrivera jamais à se dépatouiller de l'anti-impérialisme. Et je pense que ça peut-être, alors j'en ai aucune idée, mais si tu construis bien le discours, ça peut-être permettre à certaines personnes qui sont un peu réticentes sur la question de mieux comprendre la domination, la logique, et du coup d'être un peu plus en mode « Ouais, j'avoue, faut qu'on se bouge le cul, quoi. » Bah, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça va être intéressant de réfléchir à ça. Parce que c'est vrai que le discours décroissant est quand même pas mal rebuté, enfin, il rebute pas mal de gens, et il est assez... il est malheureusement pas assez mis en avant, quoi. Pour les pays les plus riches, les ressources biophysiques utilisées pour soutenir un mode de vie consumériste proviennent pour une part conséquente de l'étranger, tandis que le poids de l'impact environnemental est déplacé vers les pays les plus pauvres. Voilà, ça c'est la clé pour comprendre l'échange inégal écologique. Ainsi, la France, au même titre que de nombreux pays développés, importe près de 1,5 fois plus de matières premières qu'elle n'en exporte, voire graphique. Ce constat est le même en matière d'émissions de CO2, où l'ensemble des émissions sur le territoire français, émissions territoriales, ne représentent que la moitié de l'empreinte carbone totale des consommations françaises. Émissions territoriales plus émissions importées et moins émissions exportées. Ok. Et du reste, là-dessus, les gens, pour ceux qui veulent, on avait fait justement une réflexion sur le sujet où on se posait la question, et je me suis posé la question, est-ce que il faudrait pas justement mettre en place dans le calcul du CO2 en France au prorata, en fait, des... En gros, mettre en place l'impact des CO2 émis à l'étranger par les multinationales françaises, les rentrer dans le calcul de CO2 français par rapport au prorata de l'argent pillé, quoi. J'avais réfléchi à ce truc-là. Alors peut-être que ça existe déjà, mais pour le moment, il n'y a pas beaucoup de recherches. Donc c'est cette vidéo ici, pour ceux qui veulent. Les émissions des entreprises multinationales. Et pour justement rentrer dans le discours néocolonial et ce discours lié à l'échange inégal écologique, c'est de remettre au centre des calculs l'impact des multinationales. Et par exemple, en gros, tout l'impact total qui se passe à l'étranger, rapatrier tout ça sur notre impact, nous, en CO2. Et du coup, pour ne plus passer pour le bon élève, comme on essaie de faire croire par la population, quoi. De même, de nombreux indicateurs de déforestation importés liés à notre consommation de viande, de café ou de cacao voient le jour. Alors, comparaison du poids des biens échangés avec celui en équivalent matière première. France 2014. Du coup, c'est quoi ? Importation, importation, exportation. Ah oui, d'accord, ok. Ok. Tac, alors. Bien qu'à première vue hétérogène, tous ces phénomènes ne répondent à une même logique qui est celle de l'échange écologique inégal. L'échange écologique inégal comme appropriation des capacités biophysiques des pays pauvres par les pays riches. Pour bien comprendre la notion d'échange écologique inégal, une prise de recul temporel et spatial est nécessaire. Comme l'analyse B. Schmitt, la théorie de l'échange écologique inégal repose sur une analyse globale des rapports socio-écologiques entre les sociétés. Dans une approche brodélienne, notre système monde est dominé depuis des siècles par la logique d'accumulation infinie du capital dans les régions centres du système monde. Voilà, ça c'est le truc logique, hein, c'est que en fait, dites-vous que cet échange écologique inégal, en fait, il a commencé quand on a fait des plantations. Quand l'Occident est allé faire des plantations dans le sud et a pillé toutes les forêts en Amérique, enfin aux États-Unis quoi. C'était clairement le point de départ, en gros, de l'échange inégal écologique. Cette logique d'accumulation nécessite l'apport croissant de matières premières et de ressources écologiques venues des régions périphériques pour faire croître le stock de capital. L'échange écologique inégal stipule que l'exportation et les dégradations de l'environnement dans les pays périphériques et les plus pauvres sont le fruit de la logique d'accumulation des acteurs économiques dominants. Les pays dominants imposent une division du travail spatiale et hiérarchisée qui détermine et impose la circulation des flux de matière et d'énergie. Et en fait, ça, on l'a vu aussi avec Samir Amin qui explique ça, ou je sais plus qui, mais en gros, il y a un auteur qui explique ça, je crois que c'est Samir Amin, qu'en gros, dans les pays du Sud, tout ce qui est moderne, justement, tout ce qui est entreprise moderne, en fait, n'ont été mis en place, justement, que pour faire fuir le capital vers le Nord. Tout ce qu'on appelle la modernisation du Sud, donc vous connaissez en Afrique les rails, les autoroutes et compagnie. En fait, toute cette modernisation-là, même en vrai, même les hôpitaux et soi-disant les écoles, etc., ont été installés pour mieux permettre de pouvoir faire fuiter les capitaux vers le nord. C'est toute une logique, toute une suite coloniale qui s'est installée dans les pays. Et du coup, ça permet un peu de mieux comprendre pourquoi toute cette machinerie moderne est présente et quelles sont les utilisations de ces machineries modernes. L'échange écologique inégal stipule que l'exploitation et les dégradations de l'environnement dans les pays périphériques les plus pauvres sont le fruit de la logique d'accumulation des acteurs économiques dominants. Je sais pas si on l'a déjà lu ça, mais oui. J'ai du mal avec les trucs dans les articles quand ils mettent des petits passages comme ça. Je sais pas s'il faut les lire ou si c'est des espèces de highlights. Anne, je sais pas comment, A. Honborg, définit l'échange écologique inégal comme une appropriation indue des ressources biophysiques des pays périphériques par les pays les plus riches. Ainsi, chaque année, ce sont des millions de tonnes de matières premières, de terajoules d'énergie ou des millions d'hectares qui sont exploités dans les pays pauvres au service des pays les plus aisés. Donc ça, pareil, on peut penser le pétrole, on peut penser à toutes ces formes de ressources. L'échange écologique inégal est donc caractérisé en premier lieu par des flux asymétriques de ressources biophysiques des pays pauvres vers les pays riches. L'exportation massive par les pays périphériques de leurs ressources biophysiques crée des entraves importantes à leur développement et à l'accumulation d'infrastructures et de technologies pour gérer du développement économique. Ça a du sens car si tes infrastructures ne permettent d'aller loin, tu n'es pas obligé de trouver des débouchés locaux. Oui, c'est ça, exactement, oui, c'est ça. Non, c'est pour mettre en valeur certains passages du texte, mais comme tu lis déjà le texte. Ouais, voilà, c'est ça. Mais en fait, genre, Rizmatic, des fois, le problème, c'est que une fois, j'ai pas lu. Je sais plus si c'était sur quel site. J'ai pas lu le petit encart. Et en fait, c'était un passage inédit. Je sais plus quel site avait fait ça. L'échange écologique inégal peut aussi s'analyser comme une asymétrie dans la capacité des pays pauvres à valoriser leurs ressources écologiques. Le prix payé pour leurs ressources aux pays pauvres, qui correspond au prix du marché des matières premières, ne reflète ni les pollutions, ni les dégradations environnementales, ni les conséquences désastreuses sur le développement des pays sur le long terme. Alors ça, c'est bien sûr ça, c'est les externalités négatives. Donc en gros la définition de ce qui est écrit là. Et justement, c'est pour ça que le Zimbabwe, c'est information importante, le Zimbabwe a justement refusé d'envoyer dans les, a commencé à voter une loi pour bloquer en fait l'exportation de son lithium et pour faire directement dans le pays les batteries et du coup arrêter d'avoir une fuite économique liée à la transformation des ressources dans les pays du Nord. Et ça, je pense que c'est une des choses qui est très très importante à faire et j'espère que ça va être suivi par plusieurs pays du Sud. Pour bah justement commencer à mettre en place un vrai savoir intellectuel, ingénieur, un vrai savoir aussi prolétaire, quoi, enfin d'ouvrier, sur ces sujets-là, construire des usines et du coup réussir à tirer son épingle du jeu du système mondial et permettre de pouvoir s'émanciper au moins avec ses ressources, quoi. L'accident de lecture est vite arrivé. Oui, c'est ça, exactement. L'échange écologique inégal au cœur du système colonial. L'analyse de l'échange écologique inégal passe par une analyse historique de long terme des dynamiques d'échange des ressources biophysiques des nations. De fait, certaines formes d'échange écologique inégaux ont toujours existé, notamment entre villes et campagnes. Ah, c'est intéressant ça. La ville a toujours centralisé et accumulé les ressources des campagnes avoisinantes. L'historien Fernand Braudel, pardon, note ainsi que Paris consommait en 789 près de 2 millions de tonnes de bois et de charbon de bois en utilisant pour s'alimenter ses boulangers en farine l'énergie de près de 2500 moulins répartis sur le long de la Seine. Ok, donc ouais, c'est vrai que l'échange inégal écologique a toujours plus ou moins existé au sein des nations, quoi. C'est ce qu'on appelle aussi les termes de l'échange pour ce qui est du prix, qui généralement sont défavorables aux pays du Sud. Attends, je vais le noter ce truc-là, merci Rizmatic. Et oui, c'est ça, en gros. À chaque fois, en gros, les matières premières ont moins de valeur dans le sud que dans le nord, quoi, globalement. Ces déséquilibres de flux de matières, observables à mille endroits, autour de telle ville, le long d'une certaine rivière ou à la frontière de tel écosystème, ne peuvent être considérés comme un fait global, c'est-à-dire mondial, qu'à partir du XVIe et du XVIIe siècle, avec la construction et la mise en place des systèmes coloniaux et la mise en exploitation du monde par les nations européennes. Voilà. En gros, 1492, découverte de l'Amérique, mise en place du commerce triangulaire, etc. On déplace les populations d'Afrique dans les Antilles, en Amérique latine et en Amérique, pour faire des plantations, pour faire l'exportation de recherche, de ressources, pardon, de ressources et de richesses, et envoyer ça du coup pour enrichir les pays du Nord. Il y a PDH qui a fait une vidéo là-dessus pour ceux qui veulent. Parole d'honneur. Wissam qui a justement expliqué comment les pays du Nord se sont enrichis en pillant le Sud, quoi. Voilà. Comment la France et l'Occident sont devenus riches. En fait, ça parle évidemment de ces logiques-là d'exploitation des ressources pour aller, par exemple, faire Haussmann, etc., quoi. En gros, avec leur exportation, les pays du Sud peuvent moins importer que les pays du Nord avec les leurs. Ok. Merci pour l'éclaircissement. Oui, ce qui part. En fait, ça paraît. Enfin, dit comme ça paraît évident. En fait, quand tu le mets sur papier, c'est logique. Hop, merci beaucoup pour le lien, enfin l'info. Nombreuses sont les illustrations qui mettent en évidence l'existence d'échanges écologiques inégaux au cours de la première phase d'expansion européenne entre le 15e siècle et le 17e siècle. Les travaux structurants de S.G. Bunker ont par exemple décrit avec précision les cycles d'exploitation successifs que l'Amazonie a connus pour répondre aux besoins des centres d'accumulation européens. Le bois, le caoutchouc, les ressources minières ont été tour à tour exploitées. Et on peut penser aussi, par exemple, un truc qui est assez peu mis en avant et que j'ai découvert dans le dessous des cartes, et même Armangos en parle aussi, le fait que le cacao, initialement exploité dans les. Enfin, initialement qui arrive en fait en Amérique latine, en fait a été déplacé en Afrique Je crois même acclimaté, si je dis pas de bêtises, acclimaté, et du coup on a fait de la culture de cacao en Afrique, mais qui à la base n'est pas du tout un fruit qui poussait originairement en Afrique. Donc c'est aussi ça, le commerce, enfin l'échange inégal écologique, c'est aussi bah, acclimater des populations de végétaux pour pouvoir mieux exploiter dans vraiment tous les pays du Sud, anciennement, enfin là où il y avait des colonies en fait, avec le système de la plantation qui est une forme d'usine, une énorme usine d'extractivisme, quoi. Chaque cycle est caractérisé par la mise en place d'un échange écologique inégal imposé par les pays colonisateurs. Sur place, l'extraction des ressources se fait grâce à l'exploitation et la mise en esclavage des populations indigènes locales ou amenées d'autres régions du monde. Voilà, c'est ça. Exactement. Bunker détaille comment l'ensemble des institutions économiques, juridiques et politiques, des infrastructures de transport et des termes de l'échange commercial a été mis en place pendant 4 siècles pour répondre aux intérêts économiques étrangers. Et ça, on peut penser, moi, ça m'a marqué là, dans le documentaire sur l'esclavage là, sur Arte, c'était que les entreprises d'assurance, une des premières, en fait, vient pour protéger un marchand d'esclaves noirs. Et du coup, c'est abusé en Angleterre. Ça m'avait pas mal choqué quand j'ai vu cette information. Comme pour la banane qui vient d'Indonésie. Ah bah voilà, je ne savais pas ça, sol bémol. Ok, donc du coup la banane qui a été imposée, enfin importée dans les Antilles pour. Ok, j'avais pas l'information, tu vois. Salut Diamond. Ouais, je teste la lecture à lunettes. Je sais pas. À voir si c'est si ça m'aide ou pas, mais en fait la dernière fois je lisais trop dans le noir et ça m'a flingué les yeux. Et du coup j'essaye de me. Voilà, peut-être que c'est pour ma bonne conscience, hein, mais j'essaie un petit peu de m'adoucir m'adoucir la vision, quoi. Ainsi, les conditions d'exploitation ont été élaborées pour servir les intérêts économiques extérieurs. C'est un constat
Il y
similaire
en a des mots.
qui peut être dressé pour l'ensemble des régions sous l'emprise coloniale, que ce soit dans les Amériques, en Afrique ou en Asie. Les pays dominants ont imposé une division du travail visant à exploiter au maximum les ressources biophysiques des terres colonisées. Ainsi se développent les cultures intensives destinées à l'export. Et ça, les gens, c'est quelque chose que je vous parle vraiment souvent, gardant en tête que cette division du travail et toute cette logique du travail, c'est aussi le fait que quand nous, on a interdit le travail des enfants ou le travail comme ça, exploité, etc., comme d'hab, je vous le dis, mais ça, vraiment, gardez-le en tête, il a été interdit en Occident, mais c'est pas qu'il a été interdit, c'est qu'il a été déplacé. En fait, on a juste déplacé le travail des enfants dans le Sud. On a juste déplacé le travail de 15 heures dans le Sud. En fait, c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre en compte que quand il y a des choses qui sont gagnées dans le Nord, très 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 souvent, c'est au détriment des pays du Sud. Si tu achètes un PC, essaie de prendre un écran OLED, c'est mieux pour les yeux. Ok, bah en vrai, j'ai pas acheté d'écran, donc je verrai, je vais noter ça, ouais. Je vais noter un écran OLED. Merci pour l'info, Yolomonde. La production du tabac, du café, de l'indigo, du cacao, puis surtout de la canne à sucre, suivent cette même logique. Les structures d'exploitation des ressources imposées ont créé, pardon, des sociétés fortement inégalitaires et hiérarchisées, fortement dépendantes de leur capacité à exporter des productions agricoles et minérales demandées par les centres. Et donc du coup, bah, mise en place des logiques de comment dire de hiérarchie de bourgeoisie, etc., quoi. Pareil, on a mis aussi, ça a permis de mettre en place la bourgeoisie dans les pays du Sud et d'installer la forme de hiérarchie qui n'était pas forcément présente dans les populations précapitalistes. Même s'il y avait une forme de hiérarchie, mais pas aussi forcément violente, quoi. Les territoires colonisés fournissent aux puissances européennes les terres dont elles manquent, le travail humain via l'esclavage et les ressources écologiques locales. Au fur et à mesure que se déroule le processus d'accumulation capitaliste au sein des centres du système monde, les frontières d'exploitation sont repoussées et de nouvelles contrées sont intégrées à l'économie monde capitaliste. Voilà. Et ça, faut vraiment. Ça, je pense que c'est très important de le comprendre. C'est pour ça que on ne peut pas là, du jour au lendemain, dire le capitalisme, c'est fini, etc. Non, en fait. Là, tous les pays quasiment du monde sont pris dans l'engrenage. Donc, si on doit faire tomber le capitalisme, c'est un truc global à mettre en place. Et c'est pour ça que là, moi, j'aime bien les logiques de dire le déjà-là communisme. C'est pour ça que je pense qu'il faut commencer à mettre en place, au sein du capitalisme, des filets de sécurité, des entreprises qui fonctionnent déjà dans une espèce de logique post-capitaliste. Pour éviter, si un jour ça arrive, le capitalisme chute. Pour éviter que justement il y ait des vraies galères et qu'il y ait des autres dominés. En fait, qu'en gros, il y a une nouvelle population dominante reprenne le pouvoir et se réinstalle de la même manière, quoi. Enfin, et forme, comment dire, et applique une nouvelle domination, quoi. En fait, il faut avant tout, en amont, commencer déjà à repenser la mise en place d'une société si le capitalisme devait chuter, quoi. C'est pour ça que je critique un peu tout ce qui est éco-village et trucs comme ça, mais mine de rien, ça peut être des pistes de réflexion pour faire ça, même si c'est sûr que je préfère des choses comme hier on a vu Marina Leda ou le Rojava kurde ou le Chiapas par exemple. Des choses un peu plus politiques, quoi. Salut Discount, à Saint-Aubert. Hop là. Mais en vrai, l'article est vraiment bien écrit. Hein. J'aime beaucoup. Enfin, très très basé l'article. L'échange écologique inégal comme facteur explicatif de la révolution industrielle. L'échange écologique inégal est un fait historique dûment documenté. L'accaparement des ressources écologiques et biophysiques des périphéries a joué un rôle clé dans l'accumulation au sein des centres de gravité de l'économie monde. Certains historiens proposent une thèse encore plus forte. Ils arguent que la capacité à mettre en place un échange écologique inégal a pu jouer une fonction déterminante dans la révolution industrielle et le boom économique des 18e et 19e siècles. Bah, alors désolé, mais moi je suis clairement d'accord avec cette logique-là. Hein. La révolution industrielle dans le Nord, hein, ça s'est mise en place en exploitant les pays du Sud, évidemment. Sans évoquer directement la notion d'échange écologique inégal, c'est bien un argument de ce type que propose l'historien Pomerance dans son livre La Grande Divergence. On a déjà cité hein, Pomerance plusieurs fois dans les lectures. À partir d'une comparaison entre deux régions du monde entre 1750, l'Angleterre et la vallée du delta de Yangtze en Chine. Ah oui, voilà, ok. Et je l'ai lu récemment, je crois. Bah, je crois que c'est Deleuze qui en parle, si je dis pas de bêtises. Il met en évidence le rôle clé joué par l'exploitation à la fois des colonies et des ressources en charbon du sous-sol pour expliquer la divergence économique qui a eu lieu entre ces deux régions et la naissance de la révolution industrielle en Angleterre. Selon lui, ce qui explique la grande divergence en matière de développement économique entre ces deux régions, ce ne sont ni les différences géographiques et écologiques, ni les différences institutionnelles, ni l'organisation des marchés ou des familles, ni les différences de niveau ou d'espérance de vie, ni le niveau technologique ou les productivités agricoles, mais bel et bien la capacité de l'Angleterre à échapper à ses contraintes naturelles en exploitant le charbon des sous-sols ainsi que les terres et les ressources des colonies. Moi, vraiment, je suis clairement d'accord avec cette thèse-là. Et pour ceux qui veulent, on en a parlé en stream. Ça me fume. Du coup, maintenant, j'ai tellement lu l'article que maintenant, on peut trouver. Je peux faire des connexions sur les différents sujets, quoi. Si c'est pas beau, ça. Donc, pour ceux qui veulent, on en a parlé. Hop, les origines du capitalisme. Si je dis pas de bêtises, hein, c'est cet article-là. Qui explique justement. Bah, ça parle de la Chine et de la croissance du capitalisme, etc. Pas exactement, ce n'est pas Deleuze et Guattari qui en parlent, mais moi commentant les deux pour montrer le parallèle avec Pomerance. T'es sûr dans. Ah, je pensais que dans l'Anti-Œdipe, à un moment il parle de ça. Ou alors c'est toi qui en parles, mais j'avais cru lire ça. En fait, je l'ai lu récemment, j'ai lu il y a quelques jours. Donc je sais pas si c'est toi, voilà, j'avoue, je sais plus positionner ça, mais je croyais que c'était dans l'Anti-Œdipe. My bad, hein. Merci du coup pour l'info. Salut Ramen, ah, ça te bien. Non, ils disent des trucs qui ressemblent à ça. Ah, ok, c'est peut-être ça, ouais. Ils disent des trucs ressemblants, ok. En fait, je sais que dans le livre, ils parlent de capitalisme lié à la Chine. Enfin, j'ai vu un moment en mode. Ils parlent de la Chine et de l'histoire capitaliste. Bref, peu importe. Ils parlent de complémentarité Orient-Occident. Ok, merci. Oui, mais ils citent Balaz. D'accord, ok, pardon. Ouais, bah, merci pour le retour. Toujours un rhizomatique dans la poche. La bureaucratie céleste, ok. Je dois dire que je suis sur Twitch depuis un moment, mais quand ça a parlé du saccage des océans, je suis resté en leurre, ça m'a fait du mal. Ah bah t'inquiète, y a pas de souci, Ramène. Je comprends. Alors que la Chine a été obligée, face à sa croissance démographique, d'intensifier la production agricole en augmentant la part du travail humain par hectare, l'Angleterre a déplacé les secteurs intensifs en travail humain et en terre au sein de ses colonies et a ainsi délocalisé la production intensive en travail. Cette thèse entre en résonance avec celle des hectares fantômes. Ah voilà, ça on a parlé, ça on a déjà parlé des hectares fantômes. Il faut absolument que que je bosse ce sujet-là. Ce sont l'ensemble des surfaces terrestres que l'Angleterre a économisées en utilisant du charbon de son sous-sol et les ressources biophysiques de ses colonies. Ok, donc là on a la définition. Grâce à l'exploitation du charbon et la mise en place d'un échange écologique inégal avec ses périphéries, L'Angleterre a dépassé ses contraintes écologiques et a consommé bien plus de ressources écologiques et énergétiques qu'initialement permises par ses capacités biophysiques propres, ressources en bois et rivières en premier lieu. Bien sûr, et même on le voit, par exemple, l'Angleterre qui a beaucoup bloqué avec ses révolutions avec le charbon. Et en fait, quand il y a eu la mise en place du pétrole, ça a permis aussi de pouvoir s'émanciper des grèves, etc., que les prolos faisaient. Donc, bien sûr, il y a toute une logique liée à l'exploitation du Sud et liée à tout ça, quoi. Merci beaucoup, Geek des Plaines, pour le sub offert à Diamond. Incroyable! Merci beaucoup, Diamond, pour le petit message. Comme le capitalisme extorque le travail, le colon pille les terres, on n'est pas riche innocemment. Ouais, c'est exactement ça. Et vraiment, il faut vraiment. Moi, je trouve que cette phrase de Rouria Boutelja est très, 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 très puissante. On n'est pas occidental innocemment. C'est ça, vraiment, c'est la clé de la compréhension. On n'est pas occidental innocemment. Ça permet de comprendre d'où on vient, d'où on a été mis en place et d'où, en fait, toute notre évolution historique a été installée en pillant les ressources du Sud, quoi. Et à l'heure actuelle, et ça, je pense que c'est important d'en parler, à l'heure actuelle, on est encore en train de le faire avec notamment, un, le pillage des ressources enfin, des richesses, mais on pille aussi les... Alors, j'aime pas le dire ce terme-là, mais c'est pour comprendre aussi la logique extractiviste, c'est qu'on est aussi en train d'extraire les ressources humaines. Alors, c'est un terme qui est vraiment nul à chier, mais c'est pour vous compreniez la logique. C'est qu'en fait, en pillant les pays du Sud, en pillant leur richesse, les pays s'appauvrissent et donc du coup les populations migrent parce qu'ils ne peuvent plus vivre dans leur pays. Et de ce fait-là, l'ensemble du pays s'appauvrit, reste dans une logique de domination avec le Nord et par rapport au Nord. Et en fait, il reste plus qu'une population vieillissante avec majoritairement des femmes et du coup le pays ne peut pas tourner pleinement que s'il avait une vraie richesse et une vraie population active avec des jeunes qui étaient motivés, qui pouvaient faire tourner le pays. Donc on peut penser à la Guinée par exemple, voilà, il y a plein de pays comme ça, l'Érythrée, il y a enfin le Soudan, etc. Bref, tous ces pays-là, qui du coup ce sont des populations qui sont obligées de fuir parce que les pays sont trop pauvres et on ne peut plus vivre dignement dans ces pays-là. Donc c'est pour ça que le sujet de la migration est aussi très important pour comprendre, au-delà de dire les connards d'extrême droite vont vous dire oui, ils vont nous remplacer, je sais pas quoi, dans niquer vos darons. Non, ce qui est vraiment intéressant à prendre en compte, c'est que du coup, c'est toute une logique d'affaiblissement de la population au sein même du pays d'origine, quoi. Donc ça, faut aussi le comprendre et le visualiser pour essayer de construire, de machiner un discours intéressant là-dessus. Hop. On pille les ressources des pays du Sud beaucoup plus intensément qu'au 16e siècle, je trouve. Le commerce triangulaire était une exploitation de quelques comptoir avec un vol de population particulièrement choquant, mais on est passé à une exploitation à bien plus grande échelle. Oui, je pense qu'on peut dire qu'on est passé à une exploitation énormément plus, évidemment, parce que productivisme, vu que le capitalisme est basé sur un productivisme puissant, évidemment qu'on pille de plus en plus de ressources. Ça me paraît, tu as raison de le préciser, bien sûr. Mais c'est vrai que le rapport. Alors là, attention à ce que je vais dire, désolé si ça peut en choquer certains, mais. Faudrait voir en fait le. Alors je pense qu'il est beaucoup moindre, mais il faudrait voir le rapport en fait de fuite des personnes dans les pays originaires, du coup liés à l'immigration, voir si justement il n'y a pas aussi. On ne pourrait pas faire une espèce de corrélation en mode malgré l'arrêt de l'esclavage, il y a quand même une énorme. Alors je dirais le terme extractivisme, mais bon, je ne veux pas déshumaniser, hein, enfin, je pense que vous connaissez, je ne suis pas là pour déshumaniser, vous voyez ma logique, mais je pense que si on fait le rapport par exemple extractivisme. C'est possible que des pays subissent, peut-être pas une perte aussi grosse, c'est pas possible, mais une perte très très élevée de force productive humaine, quoi. Je pense pas qu'on peut faire des parallèles, mais ce que je veux dire par là, c'est intéressant de voir un peu si on peut mettre des. C'est vrai, faudrait que je vois s'il y a des auteurs du Sud ou même des auteurs décoloniaux qui réfléchissent à ce genre de rapport-là. Même si en général, c'est pas folichon de faire des rapports par rapport à l'histoire ancienne, mais bon. La fuite des cerveaux aussi. Oui, bien sûr, c'est fuite des cerveaux, fuite des bras, enfin, voilà, quoi. Comme je vous dis, hein, c'est beaucoup, beaucoup de jeunes hommes qui s'en vont, beaucoup périssent dans la mer, donc, ouais, mais non, c'est un fléau pour les pays du Sud, hein, évidemment. Hop là. Lorsque tu parles de ressources humaines pillées dans le Sud, je croyais que tu parlais de la fuite des cerveaux, les plus déprimés. Non, 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 c'est vraiment. Non, en gros, je fais vraiment rapport à. C'est pour ça que quand je dis que c'est un extractivisme et de ressources humaines, c'est dans le sens où tous les travailleurs qui vont travailler enfin les travailleurs migrants quand ils fuient leur pays d'origine, c'est qu'en fait, oui, il y a les cerveaux qui s'en vont, mais ça, c'est pour les plus chanceux et ceux qui ont le plus enfin, qui sont déjà haut dans la société, entre guillemets. Non, moi, je parle vraiment des populations qui fuient le pays parce qu'ils ne peuvent pas vivre dignement, quoi. C'est vraiment ça que je parle. C'est pour ça que j'aime pas trop le terme parce que c'est assez déshumanisant, mais ça permet de comprendre la logique. Jason Moore, il en parle dans le capitalisme, dans la toile de la vie. Ok, alors attends, faut vraiment que je le note alors. Mais c'est vrai que je suis un peu mitigé d'en parler parce que ça peut être un peu. Enfin, le problème de ressources humaines, c'est que c'est un terme qui est vraiment bancal, mais je trouve qu'il est important pour comprendre. J'avais lu un truc, je me souviens, ouais. Mais il faut que je le lise parce que ça me dit rien ce truc-là. Extractivisme humain. Hop. Et je trouve que c'est une bonne approche pour un peu comprendre la logique d'extractivisme, quoi. Toutes les nouvelles meilleures startups des États-Unis sont créées par des immigrés. Ouah, ça m'étonne. En vrai, ça m'étonne pas. Ça m'étonne vraiment pas. Hein. Attendez, du coup, on continue l'article. Hop. L'échange écologique inégal s'illustre parfaitement avec l'exemple de l'industrie du textile britannique. L'industrie textile repose sur l'utilisation massive de terres dans les colonies pour faire pousser le coton. Un exemple concret vient corroborer cette allégation. Du coup, Hornborg indique en 1850, en échangeant sur le marché mondial 1000 livres de textile contre 1000 livres de coton provenant de ces colonies, la Grande-Bretagne échangeait en fait 4092 heures de travail britannique contre 32 619 heures de travail à l'étranger, soit un gain de près de 700% à l'usage de moins d'un hectare de terre britannique contre l'usage de 58 hectares de terre à l'étranger. Ah ouais! Ah, ce chiffre, il est incroyable. Très très bon chiffre, ça, pour comprendre l'enrichissement, du coup. Ah, ça, c'est vraiment une donnée qui est importante à garder en tête. Par ailleurs, au sein des colonies, la Grande-Bretagne met en place un ensemble d'institutions permettant l'émergence de l'échange écologique inégal. La société esclavagiste, hiérarchisée, est tournée vers la satisfaction des besoins de la métropole, sans prendre en compte le développement propre des régions exploitées. Le colon cultivé requiert plus de travail humain et appauvrit les sols. Non, putain, oui, c'est bien ce que j'ai. Le coton, pardon. Le coton cultivé requiert plus de travail humain et appauvrit les sols, contribuant ainsi à la dégradation environnementale des périphéries. Je me disais aussi, ça me faisait bizarre d'avoir dit le colon, je comprenais pas. Salut Aldente. Échange écologique inégal, plus présent que jamais. L'asymétrie des flux biophysiques n'a cessé depuis de se renforcer et de s'accroître à travers les décennies et les siècles. Ah, donc ça, c'est ce que disait Raven. De plus en plus de régions sont constamment intégrées au système monde pour répondre aux besoins exponentiels des centres d'accumulation. Voilà. Et en gros, ça, je pense qu'on peut aussi prendre la logique du FMI, tu vois. Le fait que le FMI a réussi à s'installer dans plein de pays du Sud, bah, c'est pas anodin. Parce qu'une fois que le FMI est présent dans le pays devient globalement libéral, s'intègre au marché mondial, et là, bah, c'est finito, quoi. T'es pris dans l'engrenage et c'est la fin des haricots. Au centre d'accumulation historique, Europe et États-Unis, sont venus s'ajouter de nouveaux acteurs importants nets de ressources écologiques, contribuant à la mise en exploitation de l'intégralité du globe. Ces nouveaux centres s'ajoutant aux premiers sont en particulier les pays du Golfe ou l'Est asiatique. Donc en gros, tout ce qui est pétrolier, Arabie Saoudite, Qatar, etc. Et tout ce qui va être Chine et Japon, je pense. Et l'Inde aussi, Chine, Japon, Inde. La division internationale du travail assujettit de nombreux pays à rester éternellement exportateurs nets de contenu écologique pour les pays les plus riches. Ce constat s'articule au sein de nombreux domaines de recherche et de courants théoriques et idéologiques. Post-colonialisme, ingérence étrangère dans les pays les plus pauvres, exploitation des ressources par les multinationales, impérialisme. Voilà. C'est pour ça qu'il faut être basé sur ces questions-là. Et c'est pour ça que je suis fondamentalement contre les multinationales. Vraiment, il faut détruire les multinationales. L'idée de Moore est que le capitalisme ne repose pas uniquement sur l'exploitation du travail salarié, mais également sur l'appropriation d'une nature bon marché. Il distingue quatre bons marchés, qui sont des natures appropriées dans lesquelles l'exploitation ne pourrait être rentable. La nourriture, l'énergie, les matières premières et la force de travail. En tant que l'être humain, lui aussi, appartient à la nature et est susceptible d'être une nature bon marché. Ok, ouais. On avait lu ça dans sa recension. Ok, merci, Rizantik. Attends, il faudrait que je replonge dedans alors. Mais du coup, je vais voir pour lire un peu le bouquin, parce qu'il y a moyen qu'il en parle. Hein. Au moins faire un petit contrôle F, tu vois, pour un peu voir les passages qui l'évoquent. Merci, Rizantik, j'irai checker. Recul de la ligne de frondaison, pardon, des forêts au bénéfice des cultures de café et de cacao. exploitation de gisements miniers toujours plus importants et polluants aux quatre coins du monde, dont le projet de la montagne d'or en Guyane n'était que le dernier exemple, épuisant des ressources halieutiques par les flottes de pêche des pays dominants. Et là, on peut penser actuellement EACOP de Total en Tanzanie et en Ouganda, et l'Afrique du Sud aussi. Pareil Total, mais je sais plus c'est quoi le nom du projet. Les illustrations de cette mise en exploitation du monde en bénéfice des centres d'accumulation ne manquent pas. Ce fait global a été récemment mis en évidence de manière empirique et systématique dans une étude mondiale concernant les flux de ressources biophysiques. Ainsi, une vaste enquête démontre que l'échange écologique inégal est un fait empirique prouvé des 25 dernières années et que la valorisation des ressources écologiques est bien plus faible que les exportations des pays les plus pauvres. Ça, ça me paraît tellement évident. À l'exception de l'Inde et de la Chine, l'ensemble des pays du monde sont des exportateurs nets de ressources vers les pays les plus riches du monde. Peu ou prou ceux de l'OCDE. Et en vrai, le problème de l'Inde et la Chine, c'est que quelle a été la répercussion sur la population, quoi. Pour réussir à s'émanciper de ça, regardez aussi comment les populations ont été exploitées pour réussir à tirer une épingle du jeu, quoi. L'échange écologique inégal leur permet simultanément de s'approprier les ressources écologiques indispensables à l'accumulation de capital et de réaliser un gain monétaire net grâce à l'échange international. Ainsi, la valeur ajoutée par tonne d'une matière première extraite dans un pays riche est 11 fois plus importante que celle de la matière première extraite dans les autres pays. Oh là, t'as un cri, hein. Là, et ça, on l'a vu, hein, quand, en fait, à partir du moment où tu mets en parallèle les paysans du sud qui sont encore avec des outils manuels et les paysans du nord qui sont avec des énormes tracteurs et que tu mets sur un marché mondial le prix du blé à la même quantité, enfin au même prix, bah voilà, il faut pas être devin pour comprendre que ça va faire une erreur, quoi. Le graphique ci-dessous, tiré de l'étude susmentionnée, illustre ces transferts de ressources biophysiques entre les pays riches, high income, moyennement riches, UMI, moyennement pauvres, LMI, et pauvres, LI, auxquels on ajoute la Chine, CHN, et l'Inde. Le graphique A représente les transferts en termes d'empreintes matières, le B en matière d'énergie incorporée dans les exportations, le C en matière d'utilisation incorporée de terre, et en D la matière de travail incorporée. Ah bah c'est un peu la logique de... C'est ce que tu viens d'écrire en fait, Rhizomatique. En vrai c'est la pensée de Moore, enfin, c'est un peu ce que vient de dire Rhizomatique, la pensée de Moore. Pour chaque indicateur, on observe des flux nets allant des pays pauvres vers les pays les plus riches, illustrant parfaitement le concept d'échange écologique inégal. Enfin, le dernier graphique met en évidence le gain à l'échange des pays les plus riches en termes de valeur ajoutée nette de l'échange de ressources biophysiques, alors même qu'en valeur absolue, il importe bien plus ce qu'il en exporte. Alors du coup, ce qui est intéressant, vous voyez, ça parle beaucoup de flux, et on a lu, enfin j'ai lu un bouquin qui s'appelle là-dessus « Flux » de Mathieu Kennett. Pour ceux qui veulent, il y a des petits highlights qui sont là, qui sont disponibles ici. Et je crois qu'on a lu une recension sur le stream, donc si vous voulez un peu comprendre. Mais vraiment, il faut aussi que vous compreniez la logique de flux qui permet de visualiser comment fonctionne le capitalisme et pourquoi en fait toute cette logique de flux elle s'est installée en fait au sein du système capitaliste et comment ça permet aussi d'uniformiser en gros les ressources, les matières. Et de permettre de faire des contrôles, etc. Oui, ça va être inspiré de Moore, les quatre natures bon marché. Ouais, je pense. Hein. Ok, donc là, vous avez du coup, en gros, les échanges. Comment, en gros, les flux sont dispersés, quoi. Ah oui, d'accord. En fait, voilà. Ok, vous voyez, en gros, le violet reste dans le violet quasiment. Alors que tout le reste part dans le violet. Ah, c'est intéressant. En gros, si vous observez bien, le violet reste majoritairement puissant. Donc, c'est les pays du Nord, pour faire très simple. Et tout le reste, les petits pays du sud, hop, vous voyez, tous les trucs, ils partent comme ça. Alors qu'en vrai, les pays du nord sont assez rarement mis dans les autres pays. Ou en plus petite quantité. Hop là, salut à toi, Armando. Quelle implication de l'échange écologique inégal ? L'échange écologique inégal est donc un fait empirique majeur de l'histoire des sociétés depuis plusieurs siècles. Sa conceptualisation recoupe et synthétise un grand nombre de concepts et de courants théoriques et idéologiques. Par ailleurs, il offre des éclairages nouveaux ou complémentaires sur les différentes hypothèses clés de la réflexion sur les interactions entre les sociétés capitalistes modernes et l'environnement. En particulier, il entre en résonance avec la théorie marxiste de la rupture métabolique issu des travaux de Marx sur les liens entre agriculture et capitalisme. Alors ouais, ça c'est intéressant, la pensée de Marx sur le rapport métabolique. Alors, je suis un peu chiant, hein, désolé, je fais des connexions, mais si ça vous intéresse, en vrai, allez checker ça. On en a parlé dans ce livre-là, enfin dans cette recension-là récemment. Je crois que c'est Capitalisme et Considère, qui parlait justement de l'approche marxiste avec le truc métabolique. Donc ça peut peut-être vous intéresser. L'hypothèse de la rupture métabolique énonce l'idée que la production capitaliste, épuisée en même temps les deux ressources d'où proviennent toute richesse, la terre et le travailleur, et qu'il existe une rupture métabolique entre les liens de production des conditions matérielles d'existence, les campagnes, et de consommation de celles-ci, les villes. Par ailleurs, le support de la croissance capitaliste est un support biophysique fixe qui occasionne un échange à somme nulle de ressources écologiques entre les pays. La notion d'échange écologique inégal vient alors parfaitement s'articuler autour de la question de la possibilité d'un capitalisme sans croissance ou stationnaire. Alors, j'ai pas tout compris, attendez. Par ailleurs, le support de la croissance capitaliste est un support biophysique physique fixe qui occasionne un échange à somme nulle de ressources écologiques entre les pays. J'ai pas compris ce passage-là. Faut que je le relise. En vrai, on a quasiment parlé de tout ce qui est évoqué dans cet article. Dans d'autres articles, ça prouve que c'est un bon article de synthèse. Ouais, de ouf, rhizomatique, de ouf. Mais c'est cool en fait de l'avoir fait maintenant, j'aime bien. Ainsi, et ce depuis des siècles, les pays les plus riches imposent au reste du monde une division du travail permettant d'assurer l'approvisionnement en ressources nécessaires à l'accumulation capitaliste dans les centres de l'économie monde. Cette appropriation ne se fait pas au travers d'un échange d'égal à égal, mais repose sur un mécanisme mondialisé d'exploitation et d'accaparation des ressources biophysiques, terres, eaux, matières premières, biodiversité des pays périphériques. En gros, ça c'est la conclusion. L'échange écologique inégal soutire aux pays en développement les ressources pourtant nécessaires à leur développement de long terme et accroît les inégalités entre pays. Pour penser la crise de la biodiversité et de la baisse des contributions de la nature aux sociétés, la réflexion sur l'échange écologique inégal semble pour l'instant indépassable. Ça, je suis vraiment fondamentalement d'accord avec ça. On ne peut pas en fait s'émanciper de cette pensée-là. Et il faut absolument qu'on se renseigne là-dessus et qu'on parle de ça. Et par exemple, bah, tout ce qui est nucléaire, tout ce qui est ces ressources-là, il faut en parler en fait. Il faut être anti-impérialiste pour appuyer sur ce propos-là. Alors, attendez, du coup, Rismatic nous parle pour cette phrase-là, parce que je ne l'ai pas compris moi. Il veut dire que les ressources biophysiques échangées sont perdues par un pays et gagnées par un autre, sans qu'il y ait possibilité de gain mutuel. Ah oui, d'accord, ok, d'accord, ok. Oui, en gros, c'est toujours à somme nulle. Ah oui, donc tu ne peux pas faire de plus-value là-dessus. D'accord, ok, merci, ok. Comme dans l'échange au sens classique. Oui, d'accord, ok. J'avais pas compris, j'avais pas capté le truc. Merci pour l'explication, merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu. En vrai, ouais, comme dit Rhizomatique, c'était un article vraiment qui synthétisait beaucoup, beaucoup la réflexion qu'on a évoquée bah, depuis tous les streams, quoi. Donc c'est très, très cool. Et si vous n'avez pas tout compris, vous inquiétez pas. Il y a le monteur décolonial qui va faire un thread là-dessus prochainement. Et on va le lire, donc comme ça, alors ça fera une redite, mais c'est pas grave. Ça permettra de mieux comprendre s'il y a des gens qui sont un peu perdus. On va un peu resituer.